podcast de Blast.
L'arnaque est un jeu dont nous sommes la victime. L'arnaqueur, le conman, est une figure clé de la fiction américaine, si ce n'est la figure clé. Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, les œuvres littéraires et cinématographiques qui mettent en scène des confidence men viennent, pour la plupart d'entre elles, de romanciers ou de cinéastes américains. The Confidence Man, en français Le Grand Escroc, est le titre du dernier roman de Herman Melville. L'auteur de Moby Dick s'inspire de la personnalité d'un escroc qui sévissait à la fin des années 1840 à New York et pour qui on inventa le terme même de Confidence Man, William Thompson, aussi connu sous les alias de Samuel Thompson, James Thompson, Samuel Powell, Samuel Thomas, Samuel Williams, William Evans, Samuel Willis, William Davis et William Brown. Il avait eu cette idée de génie, aborder ses victimes en prétendant les avoir déjà rencontrées. Il gagnait ensuite très rapidement leur confiance, d'où le surnom de Confidence Man, et il leur demandait de leur prêter leur montre pour la journée, avec promesse de la rendre, ce qu'il ne faisait évidemment jamais. De très nombreux romans et films américains concernant des figures d'arnaqueurs suivront, parmi lesquels, pour les plus célèbres, Engrenage et La prisonnière espagnole de David Mamet.
You now have a Swiss bank account, anybody asks.
L'arnaque de George Hill, avec Paul Newman et Robert Redford. La trilogie Ocean, de Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon,
Matt Damon
et Brad Pitt. Et le classique dont elle s'est inspirée, en français, L'inconnu de Las Vegas, de Lewis Milestone, avec Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. On peut aussi penser au personnage de Sawyer dans la série Lost. Enfin, le plus inquiétant et le plus complexe de tous, Tom Ripley, un personnage qui apparaît dans 6 romans de Patricia Highsmith. Des romans souvent adaptés au cinéma, avec dans le rôle-titre, alternativement, Alain Delon, Dennis Hopper, Matt Damon,
Matt Damon
et John Malkovich.
Malkovich, 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 Malkovich.
Qu'est-ce qui nous séduit tant dans la figure de l'arnaqueur? Peut-être sa compréhension de la psychologie humaine, ainsi que sa capacité à contourner grâce à celle-ci les mécanismes de la loi. À travers son héros archétype, l'Amérique apparaît moins comme the land of freedom, la terre de la liberté, que comme la nation arnaqueuse par excellence. Une sorte de confidence land, exerçant un pouvoir économique, politique et symbolique usurpé. Un empire bâti sur un génocide resté impuni et nourri par une surenchère de mensonges perpétuellement récompensés. Ce qui suggère une raison finalement assez peu avouable à notre fascination pour l'Amérique. Depuis l'arrivée d'Internet, les arnaqueurs ont largement cessé d'agir IRL dans la vraie vie pour opérer dans le monde beaucoup plus brouillé, incertain et flou du web. Il est devenu relativement peu fréquent de voir un homme nous aborder dans la rue pour essayer de nous arnaquer. Mais il n'est pas rare d'être abordé en ligne par un individu dont la rencontre produira exactement les mêmes résultats dans notre vie. Sur Internet, nous ne savons jamais à qui nous avons affaire. Le IC3, Internet Crime Complaint Center du FBI, a reçu pas moins de 847 000 plaintes pour escroquerie en ligne en 2021, avec des pertes financières individuelles cumulées représentant une somme de presque 7 milliards de dollars uniquement aux États-Unis. Pour l'année 2021, le rapport annuel de la Global Anti-Scam Alliance évalue à 55,3 milliards de dollars à l'échelle mondiale les pertes occasionnées par des particuliers dans des arnaques en ligne, avec un nombre de victimes en constante augmentation, passant de 139 millions en 2019 à 293 millions en 2021. Sur Internet, nous ne rencontrons que des avatars et tout ce que nous vivons est une fiction. Mais c'est une fiction dont les effets sur nous sont réels. C'est notre impossibilité de distinguer sur Internet ce qui est de l'ordre de la réalité de ce qui est de l'ordre de la fiction qui permet à l'arnaqueur d'opérer avec autant d'aisance. Mais c'est aussi, peut-on également penser, parce que situé de l'autre côté de la messagerie électronique, il ne se confronte jamais directement aux souffrances qui naissent des conséquences de ses actes. Toute arnaque est cruelle. Mais la plus cruelle que nous puissions vivre est sans doute l'arnaque sentimentale, la romance fraud ou romance scam. Bien pire que le catfish, nous sommes victimes de la folie ou de la névrose de l'autre, mais victimes d'une folie qui malgré tout s'adresse à nous, ou du moins s'adresse à l'image idéalisée ou obsédante que l'autre se fait de nous. Dans l'arnaque sentimentale, ce qui nous arrive ne nous concerne même pas. Nous étions juste la mauvaise personne au mauvais moment. Et notre cœur, désormais brisé, n'était en réalité qu'une victime collatérale. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser que derrière tout ça, quelque chose d'autre se passe, quelque chose de beaucoup plus vaste. Une lame de fond, venue du plus profond de l'océan de la souffrance humaine et dont notre récit individuel n'est que l'écume. Et nous avons raison de le penser. Ainsi l'histoire de Colin et de Ryan Scott, un homme qui n'était pas celui que Colin croyait, mais pour qui, de toute façon, Colin n'avait aucune réalité en tant que personne. C'était une victime parmi d'autres, d'un arnaqueur parmi d'autres, dans un monde où la recherche de l'amour est un marché et où l'arnaque est devenue la règle. Bienvenue sur Internet, épisode 10, Colin et les arnaqueurs en ligne, le malheur est un métier. Colin est une Canadienne de 59 ans. Elle travaille comme comptable dans une entreprise. Elle a été autrefois en couple, mais elle vit désormais seule. Colin est célibataire depuis un bon moment, mais elle n'a pas renoncé à sa recherche de l'amour pour autant. Elle passe pour cela une bonne partie de sa journée sur Internet à surfer sur différents réseaux sociaux. En 2016, sur l'un d'entre eux, elle se fait aborder par un certain Ryan Scott. Quand elle commence à dialoguer avec lui, Ryan se dit simplement à la recherche d'amis. Mais progressivement, au fil des conversations, ils se découvrent de plus en plus de points communs. De plus, ils sont tous deux séparés et cette séparation les a beaucoup affectés. Ils ont désormais des doutes concernant leur possibilité de rencontrer l'âme sœur. Ryan, divorcé, partage avec Colin des photos de sa fille de 17 ans. Il lui évoque également ses soucis au quotidien, alors qu'il travaille comme ingénieur sur une plateforme pétrolière en Tasmanie. Très vite, le premier message que Colin reçoit au réveil vient de Ryan. Et Ryan est la dernière personne à laquelle elle écrit le soir avant d'aller se coucher. Ryan, enfin, envoie des poèmes à Colin. La relation naissante entre Colin et Ryan remplit la première de bonheur. Et elle partage ses émotions avec sa sœur Karen. Les conversations, déjà intimes de Colin et Ryan, se font de plus en plus sentimentales. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais Ryan finit par dire à Colin qu'elle est peut-être cette femme que, toute sa vie, il a attendue. Soudain, racontera Karen, Ryan était l'amour de sa vie. Ce n'était plus qu'une question de jours ou de semaines avant qu'il ne se marie. Il voyagerait à travers le monde, il prendrait soin d'elle. Plusieurs mois passent. Un matin, Ryan est un peu différent. Gêné, il demande à Colin si elle serait prête à lui rendre un service. De quoi s'agit-il ? D'une aide financière. Bien entendu, Colin accepte. Combien d'argent a-t-il besoin ? 1 800 $. Ryan a besoin de cette somme pour récupérer un camion qui restait bloqué à la douane en Turquie. Pourquoi a-t-il besoin de cette somme ? Parce que son compte en banque est temporairement bloqué, mais il attend une importante rentrée d'argent suite à un travail qu'il a fait au Koweït. Colin doit envoyer les 1 800 $ à une compagnie nommée TSS Diplomat. Elle accepte. Et puis Ryan se confond en excuses. Il lui assure qu'il la remboursera vite. Malheureusement, le transfert de Colin ne se fait pas aussi facilement que prévu. Un autre personnage entre en scène. C'est un agent diplomatique qui écrit à Colin pour lui dire que le déblocage du camion constitue une infraction grave à la loi, passible de prison. Il la menace même de la dénoncer aux autorités de son pays si elle ne lui envoie pas des sommes extrêmement importantes. À partir de là, ça va aller crescendo. En moins d'un an, Colin a vendu sa maison et toutes ses possessions et elle a également emprunté beaucoup d'argent à ses proches. Les sommes dépensées par Colin pour ce qui avait innocemment débuté comme une romance délicate avec un homme merveilleux sont de 960 000 $. Elle est ruinée, endettée et elle vit dans la terreur. Le 8 octobre 2018, elle écrit une lettre de 3 pages dans laquelle elle récapitule les étapes de cette histoire. Et elle conclut par « J'ai appris hier que les autorités canadiennes connaissent désormais mon nom et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on ne vienne m'arrêter. Je suis trop vieille pour supporter l'idée de finir ma vie en prison. Si vous lisez ceci, c'est que je suis morte. » Le lendemain matin, Colin se gare dans un parking discret de la ville de Delta. Sa lettre d'adieu à ses côtés, elle met fin à ses jours. Bien entendu, Ryan Scott n'a jamais existé. Les photos envoyées à Colin par le pseudo Ryan sont celles d'un certain Tommy Keane, un Canadien dont la photo a été volée et utilisée dans des arnaques sentimentales sur près de 70 victimes différentes. W5, un programme de la télévision canadienne, consacre une émission à cette affaire, The Invisible Man. Il la diffuse en novembre 2019. Plusieurs téléspectatrices prennent alors conscience qu'elles sont en train de vivre des histoires similaires et décident d'appeler la chaîne. Elles ont perdu des sommes plus ou moins grandes, mais certaines sont absolument gigantesques, les laissant littéralement sans le sou. En particulier une certaine Kelly, une femme vivant dans la région de Toronto. Kelly est une mère divorcée avec 2 enfants et elle se reconnaît dans le récit de Colin. À son tour, elle va raconter à l'émission W5 le récit de sa rencontre en ligne avec celui qu'elle croyait être l'homme de sa vie, un certain Greg, qui prétendait travailler pour une entreprise de défense et qui était toujours en vadrouille quelque part à l'autre bout de la Terre. L'histoire de Kelly commence en février 2017, quelques jours avant la Saint-Valentin. « Je n'aime pas me plaindre », dira Kelly, « mais j'ai vécu pas mal de trucs difficiles dans ma vie et là, je me disais que ça allait enfin être mon moment. » Greg tombe amoureux d'elle. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils espèrent pouvoir se retrouver et passer leur vie ensemble. Greg lui dit qu'il compte changer de profession pour la rejoindre. Kelly pense à lui continuellement. 4 mois après le début de leur relation, en juin 2017, Greg envoie à Kelly une copie du testament de son père, ancien directeur d'une compagnie de papier et d'une entreprise de peinture en Turquie. Greg est sur le point d'hériter de plus de 7 millions de dollars. Il va enfin pouvoir quitter son travail, rejoindre Toronto et épouser Kelly. Cependant, il y a un petit problème. En raison de la taxation sur l'héritage, Greg a besoin de quelques milliers de dollars pour pouvoir hériter. Bien entendu, Kelly se propose de l'aider. Elle reçoit alors un document envoyé par une compagnie d'avocats, Kidston Solicitors, puis une requête du tribunal de Londres qui lui demande de régler 15 700 dollars de charges, toujours liées à la production du document nécessaire pour obtenir l'héritage. Tout cela, Greg le remboursera vite. Ce n'est qu'une question de semaines. En preuve de bonne foi, Greg envoie à Kelly les mots de passe de son propre compte en banque où elle peut suivre l'activité de celui-ci. Mais les sollicitations continuent, venant de différentes officines. Et Kelly va jusqu'à vendre sa maison et s'endetter. En 16 mois, elle a perdu 2 millions de dollars.
I get so angry every time I think how stupid I was to have let this happen to me.
The cost of this scam is closer to $2 million.
En réalité, elle a perdu beaucoup plus que ça. Kelly a perdu sa joie de vivre. Elle a perdu ses rêves de bonheur. Elle a perdu son estime d'elle-même. Elle dit vivre désormais dans une honte constante. Elle a songé à plusieurs reprises à se suicider, mais c'est son sentiment de responsabilité à l'égard de ses deux enfants qui l'en a empêché. Fait exceptionnel, le pseudo Greg, cet homme qui correspondait avec Kelly et utilisait une photo volée sur Internet, a été retrouvé. Il a même été arrêté. Le compte en banque qu'il avait créé pour récupérer de l'argent de Kelly était ouvert à Hamilton, au Canada, et il n'avait pas encore été fermé à l'époque où Kelly s'est rendu compte qu'elle était la victime d'une arnaque sentimentale. L'homme de 27 ans qui correspondait avec Kelly sous le nom de Greg arnaquait simultanément 5 femmes différentes, mais il ne faisait rien de cet argent. Il vivait pauvrement dans la banlieue de Toronto et donnait tout ce qu'il volait à un groupe basé au Nigeria. Mike Kelly et Tim Trotter, deux agents de police canadiens spécialisés dans les affaires d'arnaque sentimentale, témoignent alors devant les caméras de W5. Ils expliquent que dans la majeure partie des cas d'arnaque sentimentale en ligne, nous n'avons pas affaire à des individus solitaires qui arnaquent d'autres individus pour leur profit personnel. Nous avons affaire aux membres d'une organisation beaucoup plus vaste. En l'occurrence, il s'agit de la confraternité de la Hache Noire, une mafia ou une entreprise criminelle qui a également les attributs d'une secte.
But for justice, we don't kill the innocent. We are brothers. We are one.
La confraternité de la Hache Noire est une organisation présente dans 26 pays différents, mais dont l'histoire démarre au Nigeria, un pays dont les deux tiers de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté absolue. Les fuites de capitaux s'élèvent à un taux de 1 à 2 milliards de dollars par an. Dans une intervention à la Convention de l'Europe, Eva Joly avait déclaré que le Nigeria avait été pillé d'approximativement 20 milliards de dollars en 30 ans, les fonds se trouvant en Europe et socialement en Angleterre, en France et en Suisse. Née dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle, la confraternité de la Hache Noire était initialement une fraternité étudiante. Mais celle-ci s'est transformée, en moins de 50 ans, en autre chose. La confraternité de la Hache Noire est désormais un syndicat du crime, peut-être le plus dangereux et le plus meurtrier du Nigeria. D'après Black Axe, Nigeria's Mafia Cult, un documentaire que lui a consacré la BBC en décembre 2021, la confraternité de la Hache Noire a infiltré tous les domaines de la société nigériane. L'armée, la magistrature, la politique, les églises protestantes. Les membres y prêtent allégeance à une divinité appelée Korofo, le dieu invisible, un dieu qui leur donne la force de tuer et de supporter la vue du sang. Elle a des ramifications en Sicile, à Palerme, ou à Castelvolturno, près de Naples, où elle agit en sous-traitance de la mafia sicilienne. Trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, réseau de prostitution. Elle s'est surtout spécialisée dans la fraude sur Internet, les arnaques à l'héritage par mail et les arnaques sentimentales. Dans ce cadre, les membres se partagent les domaines de compétences. Il y a ceux qui créent les conditions de la romance amoureuse, ceux qui scénarisent les problèmes financiers nécessitant les sommes requises des victimes, ceux qui produisent les faux documents administratifs, etc. La confraternité de la Hache Noire prétend avoir aujourd'hui pas moins de 30 000 membres actifs répartis autour du monde. C'est pourquoi l'arnaque la plus célèbre, l'arnaque à la promesse de legs, est plus couramment appelée arnaque nigériane.
It's the romance scam.
Nigerian scam artist
lost her entire life savings.
$230 million.
Because the suspects usually live abroad.
Lure people into fake relationships.
Who would do such a thing?
Bank account clear.
They lost nearly $1 billion.
On la nomme également fraude 419 en référence à la section du code pénal nigérian traitant ce type d'affaires. Pourtant, il ne s'agit guère qu'une variante de la lettre de Jérusalem, un type d'escroquerie qui remonte à la Révolution française et tient son nom de la rue qui longe la prison de Bicêtre. Cette arnaque épistolaire consistait à correspondre avec la future victime en feignant tout d'abord de lui proposer de l'argent, pour, dans un deuxième temps, dans un scénario plein de personnages et de rebondissements, lui en demander de plus en plus jusqu'à la dépouiller complètement. Sous le nom d'arnaque nigériane, elle se présente le plus souvent comme un mail venant d'un homme ayant récemment hérité d'une forte somme d'argent, mais ayant besoin du compte en banque de quelqu'un d'autre pour la transférer rapidement. En échange de quoi, il offrira une partie de l'héritage. Si la victime accepte, on lui demande d'avancer des sommes d'argent. D'abord petites, ensuite plus grosses. Des sommes destinées à couvrir des frais notariaux ou des pots de vin. Mais la fraude 419, si elle dépouille la victime de ses biens, ne produit évidemment pas la même souffrance ni le même sentiment de honte que l'arnaque sentimentale. Les scénarios des récits types ont de nombreuses variantes. Ils ont également des constantes. Il y a l'arnaque sentimentale dite du militaire, où le fraudeur utilise le nom et le portrait d'un soldat. Il se présente comme un homme en fin de carrière, souvent veuf, avec de grands enfants. Ses mails sont remplis de jargon militaire. Il établit un lien émotionnel fort avec la victime, mais la rencontre ne peut pas avoir lieu, en raison des déplacements constants du soldat. Les premières excuses pour demander de l'argent peuvent être l'achat d'un billet d'avion, une meilleure connexion à Internet, un nouvel ordinateur portable pour pouvoir communiquer, ou un traitement médical pour lui ou pour un membre de sa famille. Les autres personnages ou complices qui interviennent sont le plus souvent un médecin soucieux de soigner le soldat, soudain atteint d'une maladie rare, ou un avocat qui vient soutirer un revenu supplémentaire. Ces arnaques peuvent durer des années avant que les victimes commencent à se douter de quelque chose.
Best of luck in all your future endeavors.
Go. Goodbye.
Go.
Sorry about that.
You guys have liability insurance, right?
Il y a également l'arnaque sentimentale avec activité intime, dite chantage à la webcam ou sextorsion. Elle concerne surtout de jeunes victimes. Celle-ci est beaucoup plus rapide et d'une très grande violence psychologique. Et elle finit, en général, très mal. On évoque régulièrement dans la presse les suicides de très jeunes gens après un chantage à la webcam. Dans cette arnaque en ligne, après une période de séduction intense, l'arnaqueur demande à la victime d'allumer sa webcam et de discuter. La webcam de l'arnaqueur, elle, bizarrement, ne fonctionne pas. Mais il complimente sa victime et, à force de flatterie, convainc celle-ci d'enlever des vêtements et de se caresser. Dans une variante, il utilise des images déjà existantes de personnes se caressant qu'il diffuse avec des problèmes de connexion, engendrant un décalage dans le son et dans l'image qui puisse rendre plausible le dialogue incohérent avec la victime. L'arnaqueur révèle ensuite sa véritable identité. Il prétend avoir procédé à un enregistrement vidéo et menace sa victime de le partager sur les réseaux sociaux ou de la publier sur Internet, à moins que celle-ci, évidemment, ne lui envoie de l'argent. Depuis plusieurs années, à l'instar des autres types d'arnaques en ligne, ces différentes arnaques sentimentales sont en augmentation constante. En 2016, la Federal Trade Commission avait reçu 11 235 plaintes d'arnaques sentimentales. Celles-ci ont atteint le chiffre de 52 593 en 2020. Les pertes liées aux arnaques sentimentales en ligne aux États-Unis représentent plus de 300 millions de dollars en 2020. Au Royaume-Uni, elles représentent 68 millions de livres. En Australie, les pertes représentaient 20,5 millions de dollars en 2017. Elles s'élèvent à 28,6 millions de dollars en 2019. L'arnaqueur, le conman, est le personnage clé de la fiction américaine. Et ces dernières décennies, l'Amérique s'est trouvée talonnée dans cette pratique par deux autres pays, devenus les pôles principaux des arnaques en ligne, le Nigeria, donc, et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un des 20 pays les plus pauvres du monde, avec un chômage massif qui touche à 40% les jeunes hommes entre 20 et 30 ans. À Abidjan, leur taux de chômage est même deux fois plus important que dans le reste du pays. Ce sont ces jeunes gens qui forment la majorité des cybercriminels, ou brouteurs, le nom qu'on leur donne en Côte d'Ivoire. Un nom qui évoque celui qui se nourrit sans effort. Le brouteur est celui qui cherche à extorquer de l'argent en racontant des salades dans le but de dépouiller sa proie. Celle-ci, renommée Mougou en Bambara. Le Mougou, c'est celui qu'on a tapé, celui qu'on tient. Comme l'explique l'historienne Naïma Hanafi dans son livre « L'arnaque à la Nigériane » publié en 2020, les pratiques illégales des brouteurs s'insèrent dans une trame sociopolitique qui, loin de se limiter aux évolutions récentes du début du XXIe siècle, s'enracine au contraire dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et de ses relations avec les anciennes puissances coloniales. L'arnaque à la Nigériane métamorphose la relation avec l'ancien colon. Elle est fondamentalement une expérience d'émancipation. Ainsi, le broutage peut-il être saisi comme une stratégie de dépassement d'une infériorisation et d'une subordination séculaire. Les brouteurs mobilisent la mémoire de l'esclavage et du fait colonial. Il s'agirait, toute proportion gardée, de faire payer aux Blancs leurs dettes pour la colonisation et la traite négrière. Précisons que cette dernière phrase, « on fait payer aux Blancs leurs dettes pour la colonisation et la traite négrière », est une citation d'origine inconnue. Elle doit donc être maniée avec la plus grande prudence. C'est une phrase reprise dans beaucoup d'articles sur les brouteurs en Côte d'Ivoire, mais sans qu'on sache quel brouteur a bien pu la prononcer, et même si elle n'est pas l'invention d'un journaliste peu scrupuleux. Cependant, authentique ou non, on ne peut pas complètement donner tort au brouteur inconnu. Comme dit Jean Renoir dans La Règle du jeu,
« Tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. »
Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons.
Personnes dupées ont leur raison de vouloir croire à la rencontre amoureuse en ligne. Et elles ont raison, elles ou leurs proches, d'en vouloir à ces arnaqueurs qui les ont ruinés, ont piétiné leurs sentiments, les ont fait vivre dans la terreur et le mensonge, voire, pour les plus vulnérables d'entre elles, les ont poussées au suicide. Les brouteurs, eux, auraient leur raison de pratiquer l'arnaque sentimentale en ligne. Alors oui, ils feraient peut-être payer aux Blancs leurs dettes pour la colonisation et la traite négrière, mais surtout, pour les jeunes hommes d'Abidjan, des suites de la pauvreté dans lesquelles l'économie mondiale les tient, c'est aujourd'hui quasiment leur unique moyen de survie. Il est impossible de ne pas voir que la prolifération de ces petits arnaqueurs n'est que le produit d'un système économique mondial qui ne peut plus intrinsèquement profiter qu'aux criminels. Et les hommes qui maintiennent par intérêt personnel des multitudes d'autres hommes dans l'extrême pauvreté peuvent être vus comme de très grands arnaqueurs. Si les brouteurs qui se nourrissent du malheur de leurs mougous sont évidemment des criminels, alors tous ceux qui bénéficient du système qui engendre ces petits escrocs sont mille fois plus criminels encore. L'arnaque n'est pas une exception du système dans lequel nous vivons. Elle est sa règle. Elle n'est pas un accident du capitalisme. Elle participe de son essence. Les citoyens des pays riches arnaquent les pays pauvres. Les pays pauvres arnaquent leurs citoyens. Les citoyens des pays pauvres arnaquent les citoyens des pays riches. Comme dit la chanson « Sweet Dreams » d'Eurythmics, « Les beaux rêves sont ainsi faits. Qui suis-je pour m'y opposer ? J'ai traversé le monde et les sept mers. Tout le monde recherche quelque chose. » Certains veulent t'utiliser, certains veulent être utilisés par toi. Après tout, pourrait-on conclure, une arnaque sentimentale en ligne est un business parmi d'autres. Un bon business qui rapporte. Il est certes un peu plus cruel pour sa victime, mais dans celui-ci, le businessman à la manœuvre est ni plus ni moins indifférent qu'un autre aux conséquences de son gain. Le crime, ça paye.
How do you guys look at themselves? Like, I mean, do they think like, oh, I'm a piece of shit, like I'm stealing money from somebody, or is it... Just whatever.
A bunch of rich Americans.
Or like these guys are rich Americans, they have the money.
Americans have the money, so it's like a normal business, yeah.
Et comme dit une autre chanson, les pages rouges du bottin du professeur Choron cette fois, l'assassin fait un dur métier. À l'heure du crime, il faut se lever. Il y a assassin et assassin. Il y en a des moches, il y en a des biens. Se faire assassiner, c'est bien si on tombe pas sur un sagouin. Après tout, pourrait-on conclure, le malheur est un métier. On pourrait dire ça. Et on pourrait s'arrêter là, si l'arnaque sentimentale ne nous laissait pas une telle empreinte sur l'âme. On pourrait s'arrêter là, si l'arnaque sentimentale ne s'attaquait pas à ce qu'il y a de plus précieux en nous. L'arnaque sentimentale ne s'attaque pas à n'importe quoi. L'arnaque sentimentale s'attaque à ce qu'il y a de plus sacré en nous. L'arnaque sentimentale s'attaque à notre naïveté, c'est-à-dire à notre innocence. Il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, souffert et observé, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal, écrit la philosophe Simone Veil. C'est cela, avant toute chose, qui est sacré en tout être humain. L'amour est le domaine où nous voulons croire, plus que partout ailleurs, à la pureté des sentiments, à leur réalité, à leur authenticité. L'amour est le domaine où, malgré toute notre expérience, on s'attend invinciblement, dans le fond de notre cœur, à ce qu'on nous fasse du bien et non du mal. Quand on a dit d'une arnaque sentimentale en ligne que c'était un business parmi d'autres, on n'a rien dit. Mais quand le sage lui montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et quand l'idiot regarde l'arnaque sentimentale, il convient que collectivement, nous regardions la lune. La lune, notre lune, c'est la solitude. La solitude est en progression constante dans la majorité des pays riches. Sans cette progression de la solitude, il n'y aurait évidemment pas d'arnaque sentimentale en ligne. En France, d'après les enquêtes du Centre d'observation de la société, les personnes vivant seules sont passées de 6% en 1962 à 16% en 2016. Aux États-Unis, elles sont 28%, ce qui représente 37 millions de personnes. C'est une situation totalement inédite dans l'histoire de l'humanité. Et on ne peut pas dire qu'on ait même commencé à en mesurer le sens et les conséquences, que ce soit à court ou à long terme. On explique la progression de la solitude par différents phénomènes. La création d'une nouvelle période de la vie, associée à la jeunesse, entre le départ du domicile des parents et la formation d'un couple, phénomène résultant de l'effet combiné de l'allongement des durées de scolarité et des difficultés d'insertion dans le monde professionnel. On l'explique aussi par l'instabilité des couples modernes, puis par la progression du maintien des personnes âgées à domicile. Il y a enfin la part de la population qui choisit de vivre seule tout au long de sa vie. Les seuls éléments qui pourraient indiquer une inversion de tendance viennent de la hausse des loyers, les personnes seules restant alors chez leurs parents ou se mettant à vivre en colocation. Mais ces dernières sont tout autant des cibles pour les arnaques sentimentales en ligne, bien évidemment. Et bien évidemment, quelles que soient les mesures prises par les pouvoirs publics, rien ne pourrait arrêter l'arnaque sentimentale en ligne. Rien ne pourra l'arrêter tant que progresseront les phénomènes dont elle n'est que la conséquence. Là où il y a une demande, il y aura une offre. Et la recherche de l'amour est un marché. Il y a évidemment quelque chose de juste et même de rassurant dans cette progression de la solitude. Il y avait et il y a tant de mensonges, de violences et de souffrances dans la conjugalité. Mais cela n'a changé en rien les humains dans leur recherche éperdue de l'amour. Et cette recherche éperdue de l'amour, quelles que soient les nombreuses illusions par lesquelles elle passe, est également quelque chose de sacré en tout être humain. Si les gens ne cherchaient pas désespérément l'amour, ils ne passeraient pas autant de temps sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, s'il y a bien un endroit où ils ont infiniment moins de chances qu'ailleurs de trouver l'amour, c'est bien là. Moins de 9% des couples se sont initialement rencontrés sur Internet. Dans une société hyper connectée comme la nôtre, ce n'est vraiment pas beaucoup. Et pourtant, les internautes continuent de se rendre sur les réseaux sociaux dans l'idée qu'ils vont un jour y rencontrer l'âme sœur. La recherche de l'amour est comme une loupe grossissante sur l'aveuglement de l'humanité dans son rapport aux réseaux sociaux. L'amour est le lieu où nous voulons croire plus que partout ailleurs à la pureté des sentiments, à leur réalité, à leur authenticité. Mais nous allons le chercher dans les lieux de la plus grande fiction sociale. Nous allons chercher l'amour dans des lieux où nous ne rencontrons que des avatars. Et si notre présence croissante sur les réseaux sociaux est une conséquence de la solitude, il n'est pas certain qu'avec le temps, cette conséquence ne se transforme pas en cause. Si les réseaux sociaux se sont donnés comme but d'endiguer la progression de la solitude, ils ont échoué. Et ils ont contribué à rendre plus terrible encore un problème qu'ils se proposaient de résoudre. Mais ce n'était sans doute pas leur but, et ça ne l'a sans doute jamais été. Chercher à sortir de sa solitude en se rendant sur les réseaux sociaux répond à une logique à peu près équivalente à celle qui nous pousserait à aller au casino dans le but de nous enrichir. Nous permettre de nous enrichir n'a jamais été le but des casinos. Combattre la progression de la solitude n'a jamais été le but des réseaux sociaux, puisque la progression de la solitude est la source de notre présence sur ceux-ci. Notre solitude est leur gagne-pain. Pour les réseaux sociaux aussi, le malheur est un métier. Il y a 60 ans, avant même que le phénomène n'apparaisse, les solitaires étaient les figures principales des chansons des Beatles. Ils étaient la question des chansons des Beatles, comme dans le refrain de la chanson Eleanor Rigby. Tous ces solitaires, d'où viennent-ils? À quoi appartiennent-ils? Les solitaires étaient le peuple des chansons des Beatles. Ils forment même la parade de leur disque central, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Les Beatles ne pouvaient pas savoir que ces solitaires, encore suffisamment minoritaires à leur époque pour qu'ils leur apparaissent auréolés d'un certain mystère, seraient amenés à devenir, avec le temps, de plus en plus nombreux. Colin, Kelly et toutes les autres victimes d'arnaques sentimentales en ligne sont les petites sœurs des héros et des héroïnes des chansons des Beatles. Elles sont les petites sœurs d'Eleanor Rigby. Elles sont également notre avant-garde. Nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus solitaires. Un monde qui s'est laissé provisoirement envahir par sa part ténébreuse, par le malheur. Mais il contient également sa contrepartie lumineuse, présente en chacun de nous, et qui attend encore de s'actualiser. Car c'est un monde où nous pouvons également devenir plus généreux que nos prédécesseurs. Plus lucides, plus exigeants, plus singuliers, plus sensibles, plus ouverts, plus compréhensifs, plus soucieux de réparer les injustices de tous les siècles passés, et ne pas reproduire les systèmes de domination des générations précédentes. Nous vivons dans un monde qui est aujourd'hui un monde de solitaires, mais qui sera peut-être demain un monde de poètes. C'est le monde décrit dans ses paroles entendues en rêve par Paul McCartney et chanté dans le dernier hymne des Beatles, initialement offert à Aretha Franklin et publié en 1970, Let It Be. Quand les cœurs brisés, vivant dans ce monde, se mettront d'accord, il y aura une réponse, laissez être. Et malgré qu'ils soient séparés, il y a toujours une chance qu'ils puissent voir. Il y aura une réponse. Laissez être. Let it be, let it be, let it be. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Nous avons traversé le monde et les sept mers. Tout le monde cherche quelque chose. Certains veulent vous utiliser, certains veulent être utilisés par vous. Même Blast est fait comme ça. Mais malgré que nous soyons séparés, il y a toujours une chance pour que nous puissions voir. Bonne année 2023, les amis. Thank you.
Happy New Year! Bella! Doo-doo!